La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le titre de, ou tout du moins le thème de ce committing est préparation pour la crise finale. Et le texte de base de ce camp meeting est Apocalypse 3, verset 10. Je vous invite à vous rendre avec moi en Apocalypse, chapitre 3, et considérons là le verset 10. Et là, il est dit en Apocalypse 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Il y a eu un moment où, dans l'histoire du peuple de Dieu, à l'époque de l'Ancien Testament, des moments de tentation, des moments que nous pourrions qualifier de crise. Et tel fut le cas au jour d'Élie, où le peuple d'Israël devait décider de quelle adoration il allait choisir. Et ce fut aussi le cas au jour de Daniel et de ses trois autres amis, où ils devaient décider, eh bien, qui ils allaient honorer, que ce soit en Daniel, que ce soit ce qui nous est relaté en Daniel chapitre 1, ou que ce soit ce qui nous est relaté dans les chapitres qui suivent, lors de l'épisode de la fournaise ardente et de la crise de l'image dans la statue de Duras. Eh bien, il y eut un temps de crise à ces différents moments-là. Mais ici, la Bible nous dit qu'il y aura une tentation qui doit venir non pas seulement en France, non pas seulement aux USA, mais une tentation, l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et j'aimerais que nous puissions considérer un peu le contexte, d'accord, et de cette crise. Rendons-nous en Apocalypse 13, versets 8 à 10. Où allons-nous? Et là, il nous est dit, « Et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront, ce dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la création du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué lui-même avec l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. » Ici, on nous parle avec un langage, avec un vocabulaire, eh bien, de cette crise, de cette heure de tentation. Car, voyez-vous, il est question ici de tous ceux qui habitent sous la terre. Ils l'adoreront. Et on nous parle au verset 10 de la patience et de la foi des saints. Donc, nous avons là un texte qui nous permet de contextualiser ce dont il nous est dit, ce qui nous est dit tout du moins en Apocalypse 3 et au verset 10. Et j'aimerais introduire cela pour ceux qui n'auraient peut-être jamais étudié la prophétie de Daniel et de l'Apocalypse. Mais ici, en fait, il est question d'une bête, telle qu'il nous est dit à partir du verset 1, qui monte de la mer. OK? Et nous savons que dans la prophétie, la mer est le symbole des peuples. Et une bête est un symbole d'une puissance. Ainsi, c'est une puissance qui arrive à l'existence là où existent des peuples. Et on nous dit que le dragon, qui représente ici en fait l'Empire romain, eh bien, lui donne sa force, son trône et un grand pouvoir. Ici, il s'agit de, en fait, de cette bête qui monte de la mer, il s'agit de la Rome papale. La Rome papale qui a reçu sa force, son trône et son grand pouvoir de ce dragon qu'est la Rome païenne. Et on nous dit que l'une de ses têtes fut blessée à mort, mais que cette plaie mortelle fut guérie. Et voyez-vous, cette plaie mortelle a été donnée par la France à la papauté à la fin de la période des 1260 jours qui s'est terminée en 1798. Mais pendant tout ce temps, pendant ces 1260 années qui se terminèrent en 1798, eh bien, cette puissance a régné sur la face de la terre. Et voyez-vous, mais on nous dit que sa plaie mortelle, cette blessure mortelle a été guérie. Cette blessure mortelle a été guérie. Et il va y avoir à nouveau un temps où, cette fois-ci, eh bien, le monde entier, véritablement le monde entier, sera concerné à nouveau par l'activité de cette puissance. Et c'est ce que nous dit, en tout cas, Apocalypse 13, à la lumière d'Apocalypse 14. En effet, car en Apocalypse 14, lorsque nous lisons, et je vous invite à vous rendre avec moi du verset 14 au verset 16, Apocalypse 14, verset 14 à 16, il est dit, « Et je regardais encore, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée, quelqu'un assis qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et ayant en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. En Matthieu 13, verset 39, Jésus nous dit que la moisson correspond à la fin du monde. Donc par conséquent, ici, il nous est représenté la fin du monde lorsque Jésus revient. C'est clair pour vous? Et savez-vous qu'est-ce qui se passe avant la fin du monde? Le texte nous l'a dit. Juste avant que cela ne se produise, il y a une triple proclamation. Dieu envoie un triple message. Du verset 6 jusqu'au verset 12. Et de manière intéressante, le troisième de ces messagers déclare la chose suivante. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête qui sort de la mer, en Apocalypse 13, et son image, oui, l'image, eh bien, qui est érigée par la bête qui sort de la terre, dont il nous est parlé à partir du verset 11 d'Apocalypse 13. Eh bien, ce troisième ange nous met en garde contre ses deux puissances et leur activité. Si quelqu'un adore la bête et son image, dit-il, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il en sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Par conséquent, étant donné que le message du troisième ange nous met en garde contre la bête et son image et contre la réception de sa marque, il s'ensuit que cette crise, cette heure de tentation dont il nous est parlé est véritablement la l'heure de tentation finale, en fait. Avant, c'était localisé, mais maintenant, cela va être véritablement mondial, en fait. Et personne ne pourra y échapper. Tout du moins, tout le monde devra prendre une position, en fait. Et car il est dit, si vous retournez en Apocalypse 13, que cette bête, celle qui monte de la terre cette fois-ci, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle faisait que tous, petits et grands, et riches et pauvres, libres et esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, et que personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait la marque sur ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. D'accord? Et c'est ici la patience des saints, que celui qui a donné intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme et son nombre est 666. Donc, en clair, le dernier message que Dieu envoie pour notre monde met en garde contre l'adoration de la bête et de son image et contre sa marque notamment. Et tel est l'avertissement final qui est donné au monde, mes amis. Avant que la crise finale n'ait lieu, ce message nous demande de nous préparer de manière à ce que nous puissions, eh bien, être trouvés fidèles, être trouvés en train de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus lorsque cette crise s'abattra sur tous les habitants de la terre. Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées. Car ceux qui désiraient être préparés pour cette heure de tentation sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et en Apocalypse 12, verset 17, la Bible nous dit que ces personnes sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Et en Apocalypse 19, il nous a dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Et j'aimerais que nous puissions considérer quelques pensées de l'esprit de prophétie en ce soir concernant cette crise finale. Et dans « Message choisi », volume 2, à la page 421 et 422, il est dit « Frères et sœurs, je vous en supplie, en tant qu'adventiste du septième jour, montrez-vous digne de porter ce nom, tout du moins. Il existe un danger, celui de s'éloigner de l'esprit du message, dit-elle. » C'est quoi le danger? De s'éloigner de l'esprit du message. OK? Elle continue en disant, « Le peuple de Dieu ne doit pas se laisser guider par les opinions ou les pratiques du monde. Écoutez ce que le Sauveur a dit à ses disciples. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jean 14, 16 et 17. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît point, c'est qu'il ne l'a pas connu. » 1 Jean 3, 1. La parole de Dieu déclare clairement que le monde va tourner en dérision et fouler aux pieds la loi divine et que l'iniquité prendra d'immenses proportions. Le monde protestant de profession s'alliera à l'homme de péché. L'Église et le monde s'accorderont dans la même corruption. Voici que la grande crise survient dans le monde. Les Écritures enseignent que la papauté va regagner sa suprématie et que les feux de la persécution seront rallumés à la suite de compromis consentis par un monde prétendu protestant. En ce temps périlleux, nous ne pouvons résister que si nous possédons la vérité et la puissance de Dieu. Qu'a-t-elle dit ici? Elle a dit qu'en ce temps périlleux, nous ne pouvons résister que si quoi? Que si nous possédons la vérité et la puissance de Dieu. Seuls peuvent connaître la vérité ceux qui sont devenus participants de la nature divine. Il nous faut lire et sonder les Écritures avec la sagesse d'en haut. Si nous nous approchons de la parole de Dieu avec humilité, il dressera pour nous un étendard en face des impies. Il est difficile de retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. La difficulté s'accroît quand des influences cachées s'efforcent constamment d'amener un autre esprit. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle a dit au départ? Que c'était? Elle avait dit, il existe un danger, celui de s'éloigner de l'esprit du message. OK. Et là, elle dit que la difficulté s'accroît quand des influences cachées s'efforcent constamment d'amener un autre esprit. OK? Un élément qui s'oppose et se range aux côtés de Satan. Et quand nous lisons cela, gardez en tête qu'elle parle ici, elle s'adresse aux Adventistes du septième jour. OK. En l'absence de persécution, certains se sont infiltrés dans nos rangs qui font l'effet d'être des chrétiens authentiques et solides, mais qui ne manqueraient pas de nous quitter si la persécution venait à sévir. En temps de crise, ils se laisseraient vaincre par des arguments spécieux dont ils ont subi l'influence. Satan a préparé des pièges différents pour des esprits différents. Quand la loi de Dieu sera annulée, tout du moins, l'Église sera passée au crible par de terribles épreuves. Et un plus grand nombre que nous ne pouvons, et un plus grand nombre que nous ne pouvons supposer actuellement prêteront l'oreille à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Au lieu de se trouver affermis quand ils sont serrés de près par les difficultés, plusieurs montrent qu'ils ne sont pas des sarments vivants du cep divin. Ils ne portent aucun fruit. Aussi seront-ils retranchés par le divin vigneron. Ici, la messagère parle en fait du message en nous disant qu'il y a un danger en fait. Il y a un danger qui est celui de s'éloigner de l'esprit du message et de se joindre en fait à l'apostasie. Et ça parce qu'en fait, il y aurait eu une infiltration en fait de l'ennemi dans nos rangs. Et cela aurait notamment causé le fait qu'on s'éloigne de l'esprit du message, ou cela tout du moins causerait ou provoquerait qu'on s'éloigne de l'esprit du message. J'aimerais vous poser une question. Lorsque vous êtes un ange de lumière et que vous voulez piéger tous les habitants de la terre, et notamment le peuple de Dieu, allez-vous faire venir précipiter la crise sous le peuple de Dieu en un jour? Non, mes amis, non. Vous allez calculer votre coût pour être sûr de séduire le maximum de personnes, en fait. Pour être sûr de séduire le maximum de personnes. Et voilà ce dont elle nous parle, en fait. D'accord? Et mes amis, nous sommes en train de vivre cela, en fait. L'ennemi a déjà infiltré le mouvement adventiste pour tâcher de faire perdre au plus grand nombre l'esprit du message, en fait, en introduisant un esprit différent. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, a dit Jésus. On peut prêcher un message que l'on va qualifier d'être le message des trois anges, et le faire s'intituler « Le message des trois anges ». Mais en fait, l'esprit du message est différent, en fait. Ces paroles qui contiennent ce message sont différentes. On dit qu'il est le message des trois anges, mais en fait, c'est un autre message. Et n'est-ce pas ce que nous avons expérimenté? N'est-ce pas ce que nous sommes en train d'expérimenter? Ou tout du moins ce que le mouvement adventiste est en train d'expérimenter depuis quelques années? Lorsque nous avons renié la doctrine de l'expiation finale, lorsque l'ennemi a réussi à faire rentrer l'enseignement de la Trinité dans le mouvement adventiste, et que nous avons aussi, de manière officielle, ou tout du moins que l'organisation officielle a cessé de dire au monde que la bête était la papauté, et que l'homme de péché aussi, c'était la papauté. L'esprit du message, mes amis, manifestement, tend à se perdre pour la majorité. Et c'est pour cela que nous devons faire vraiment attention. Car Apocalypse 3, verset 10 nous met aussi en garde contre l'œcuménisme. Vous avez certainement, pour la plupart d'entre vous, suivi la présentation que j'avais eu l'occasion de donner, laquelle était intitulée « Œcuménisme forcé, la vérité devient une option ». Et cette présentation, en somme, présentait que la déclaration que le pape François avait à réaliser au début de l'année en disant que l'œcuménisme, en fait, ne peut pas être une option. Et dans cette déclaration, en fait, le pape a fait comprendre que, eh bien, pour cela, il faut mettre de côté, en fait, la vérité et se baser sur la tradition. Et mes amis, à ce moment-là, nous avons décortiqué Apocalypse 3, 10, ou tout du moins un certain mot d'Apocalypse 3, 10, lequel est le mot « monde », en fait, d'accord? Et nous avons vu que le terme qui est traduit par « monde » vient de « wakumene », d'accord? « Wakumene ». Et lorsque vous étudiez ce terme « wakumene », vous le voyez apparaître plusieurs fois, en fait, le terme grec, vous le voyez apparaître plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans le texte grec. Et ce terme « wakumene », il est à l'origine d'œcuménisme, en fait, d'accord? Il est à l'origine d'œcuménisme. Et toutes les fois où ce mot est employé, en fait, dans la Bible, il n'a, en fait, et très précisément dans les textes eschatologiques, c'est-à-dire les textes qui ont trait à la fin des temps, eh bien, il n'a jamais une connotation positive, en fait. Il n'a jamais une connotation positive, d'accord? Et lorsque vous lisez en Matthieu, alors je n'ai pas le verset en tête, mais Jésus dit que le seul rapport que nous devons avoir avec l'œcuménisme, c'est de l'évangéliser. Tout du moins, wakumene, le monde, c'est de l'évangéliser, en fait. Nous devons prêcher l'évangile au monde, à toute nation, très précisément. Et donc, par voie de conséquent, nous comprenons que si nous entrons dans l'œcuménisme, d'une quelconque manière que ce soit, et ce parce que nous aurons perdu l'esprit du message, eh bien, quand l'heure de la tentation s'abattra sur nous, mes amis, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons prendre la marque de la bête et de son image, en fait. Nous n'allons pas passer le test. Nous n'allons pas passer le test. Parce que l'œcuménisme suivra la bête et son image. C'est pour cela que nous devons prendre une position, voyez-vous. Il nous faut prendre une position très claire vis-à-vis du mouvement œcuménique. Et il a été présenté de manière claire durant les mois précédents. Et nous avons même eu un séminaire au Canada qui avait pour thème l'adventisme face à l'œcuménisme, où, eh bien, nous avons vu que, véritablement, le mouvement adventiste est plus que menacé, en fait, par l'œcuménisme. L'organisation officielle est véritablement œcuménique, bien qu'en, de manière officielle, elle prétend ne pas l'être, mais officieusement, en fait, les preuves sont là pour montrer que ce n'est pas le cas, mes amis, qu'elle est bel et bien dans l'œcuménisme. Par voie de conséquent, nous avons à faire attention aux esprits qui se présentent et qui prêchent en apparence le message des trois anges, aux esprits qui, sous le couvert d'adventistes du septième jour, en fait, éloignent de la véritable foi adventiste. Et le peuple qui se démarque de manière à garder la véritable foi. Le peuple qui, alors que cette crise a lieu et que cette crise s'étend en fait, ce peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, il doit prêter attention à un certain nombre de choses, notamment quant à son organisation. Car la messagère nous dit en Selected Messages, volume 3, à la page 26, paragraphes 2 et 3, « Alors que nous approchons de la crise finale, au lieu de penser que le besoin d'ordre et d'harmonie d'action est moindre, nous devrions être plus systématiques que nous l'avons été jusqu'ici. Tous nos travaux doivent être menés selon des plans bien établis. Je reçois la lumière du Seigneur selon laquelle il devrait y avoir une administration sage en ce moment plus qu'à aucune autre période de notre histoire. Que dit-elle ici? Que, alors que nous approchons de la crise finale, au lieu de penser que le besoin d'ordre et d'harmonie d'action est moindre, nous devrions être plus systématiques que nous l'avons été jusqu'ici. Ça veut dire que, au fur et à mesure, mes amis, que nous approchons de cette crise, l'ordre et l'harmonie parmi le peuple de Dieu est quelque chose qui doit être plus systématique que cela ne l'a été en fait. Et est-ce que vous savez pourquoi elle dit ça? Est-ce que vous savez pourquoi elle dit ça en fait? C'est parce que en événement des derniers jours, à la page 42, paragraphe 1, elle dit que certains ont avancé que, tandis que nous approchons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m'a montré que dans cette œuvre, nul ne doit rester indépendant. Voilà pourquoi elle déclara cela, en fait. C'est parce que, à mesure que l'on va avancer et que l'on va se rapprocher de la fin des temps, eh bien, certains vont croire qu'ils doivent être indépendants. Et voyez-vous, c'est ce qui se passe, en fait. Lorsque la lumière se fait, lorsque le voile est ôté, lorsque les Juifs modernes, eh bien, Dieu arrive à leur enlever le voile, bien souvent, il y a cette pensée, en fait, que oui, nous avons été trompés, nous avons été déçus et par l'organisation, par le système. Et de ce fait, on n'a plus besoin d'organisation, en fait. Dieu va se servir de moi, il va se servir de nous. Et on fera ce qu'on voudra, en fait. Mais voyez-vous, la message du Seigneur a dit que non, en fait. Christ, par son témoignage, a déclaré que non. Tel n'est pas le plan, en fait. Tel n'est pas le plan. Et là-dessus, certains pourraient dire, oui, mais ce genre de texte-là, en fait, conforte l'idée de rester dans la conférence, en fait. OK? Conforte l'idée de rester associé, en fait, à l'adventisme officiel. D'accord? Mais voyez-vous, est-ce que nous nous rappelons ce que, de la définition de l'Église? L'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité, mes amis. Et Madame White dit, dans Levez vos yeux en haut, que l'Église, ce n'est pas la grande cathédrale, ni l'institution nationale, ni les différentes dénominations, mais c'est le peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. C'est le peuple qui aime Dieu et qui garde ses commandements. Voyez-vous, Jésus a dit une chose. Il a dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et c'est la même chose pour, eh bien, l'organisation. L'organisation a été faite pour l'Église et non l'Église pour l'organisation. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons la façon dont cela est dans l'adventisme officiel, lorsque les gens parlent d'Église, ils font en fait allusion à l'organisation, en fait. Ils font allusion à l'organisation. Ils font allusion à l'organisation. Récemment, quelqu'un m'a dit, ah, il est employé de l'Église. Et quand il m'a dit ça, en fait, il voulait faire comprendre, en fait, par l'organisation, en fait. Mes amis, l'organisation n'est pas l'Église. Et l'Église n'est pas l'organisation. Il s'agit là de deux choses, en fait. L'Église doit être organisée. L'Église a besoin d'organisation. Mais l'organisation n'est pas l'Église. Et voyez-vous, il y a véritablement un besoin de comprendre ces choses. Notamment pour nous, en fait, qui avons ce désir de faire avancer l'œuvre. Car, voyez-vous, si nous n'avançons pas de manière ordonnée, est-ce que vous pensez que l'œuvre pourra être menée à bien? Est-ce que vous pensez que la vérité présente pourra être proclamée jusqu'aux confins de la terre? En aucune manière, mes amis, en aucune manière. C'est pour cela que celles et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui sont sortis de Babylone, de la mère et de ses filles, doivent prier et œuvrer pour que l'Église du Christ soit organisée. Mais pensez-vous que, en matière de préparation pour la crise finale, cela ne concerne que les adultes? Les enfants? On m'a dit les enfants. C'est vrai que ma question ne laissait pas le choix. Est-il possible, sincèrement, dites-moi la vérité, est-il possible que des enfants puissent passer à travers cette crise finale qui est devant nous et être sauvés? Est-il possible que des jeunes, je vais prendre ce terme-là, est-il possible que des jeunes, les jeunes qui expérimenteront cette crise finale, il passe à travers et de manière victorieuse. Je vais reprendre ma question encore une fois. Est-il possible que la jeunesse du peuple qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, eh bien, puisse être victorieuse à l'issue de cette crise finale? La réponse n'est pas très claire pour tout le monde apparemment, parce que je n'ai entendu qu'un seul oui. Permettez-moi de vous dire que, bien évidemment, que oui, mes amis. N'avons-nous pas quatre jeunes hommes à Babylone qui sont arrivés et qui se sont montrés être des exemples en matière de tempérance? Et après, lorsque trois d'entre eux se sont retrouvés dans la plaine de Dura, n'ont-ils pas résisté face à ce type? Face à cette crise de la statue toute d'or qu'on les avait obligés à adorer, il y a eu des jeunes, n'est-ce pas? Amen. Et la Bible nous dit même en psaume 119, psaume 119, verset 9 à 11. Qu'il est possible pour un jeune d'être purifié. Là, il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voix? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'essaierai ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. L'homme de péché, mes amis, le pape, par le biais de son image, d'accord, la papauté, par le biais de son image, ok, ce protestantisme apostat, eh bien, va conduire le monde, en fait, dans la transgression. Il va conduire le monde, en fait, à transgresser sa loi. Et de manière particulière, en étant infidèle dans l'observation du quatrième commandement, lequel contient le sceau de Dieu, d'accord? Car nous avons les trois caractéristiques du sceau dans ce commandement. Et par voie de conséquent, en fait, l'observation du dimanche est la marque de la bête, puisque c'est la marque de son autorité, nous dit l'Église catholique. Donc, elle le confirme. Elle confirme la déduction que nous faisons à partir de la Bible, en fait, et de ce et de ce que la prophétie de Daniel 7, 25 nous dit, il pensera à changer les temps et la loi. Donc cette petite corne qui est en fait un symbole de la papauté. Et donc, par voie de conséquent, le texte nous dit qu'il est possible pour la jeunesse, pour un jeune, d'être purifié. Mais il nous faut bien comprendre quelque chose. Cela ne sera possible que pour ceux qui auront une préparation dans la purification, mes amis. Cela ne sera possible que pour les jeunes qui auront reçu une éducation bien précise. Et j'aimerais que nous puissions considérer dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, à la page 47 et 48. La crise finale de l'histoire du monde s'approche à grands pas. Et il est crucial de comprendre que les bienfaits éducationnels de nos écoles doivent être différents de ce qu'offrent les écoles du monde. Nous n'avons pas davantage à imiter leur programme. L'instruction donnée dans les écoles adventistes du septième jour doit conduire à la pratique d'une authentique humilité. La simplicité de la vraie sainteté doit apparaître dans le discours, le vêtement, le régime alimentaire et l'influence exercée. Nos éducateurs doivent comprendre quelle est l'œuvre à réaliser en ces derniers jours. L'éducation donnée dans nos écoles, dans nos églises, dans nos sanatoriums, doit en faire clairement part. Il sera clairement précisé que les étudiants de tous les niveaux doivent éliminer de leur vie les pratiques mondaines en contradiction avec les enseignements de la parole de Dieu pour les remplacer par des actes portant la marque du divin. Notre œuvre éducative doit s'imprégner du ciel, révélant de la sorte combien l'instruction divine surpasse les enseignements du monde. Une transformation aussi radicale paraîtra peut-être impossible à certains. Mais dans ce cas, pourquoi se donner le mal de dispenser une quelconque éducation chrétienne? Connaissant la signification d'une éducation digne de ce nom, nous rechercherons sans cesse la pureté du caractère. Dans toutes nos rencontres, ensemble, nous nous garderons d'oublier que nous nous préparons à vivre dans un autre monde. Les principes célestes seront appris et pratiqués. La supériorité de la vie future par rapport à la vie présente sera imprimée dans l'esprit de chacun. Les éducateurs qui n'auront pas à cœur d'introduire ces notions dans leur œuvre éducative échoueront dans la participation pour la formation de caractère agréé de Dieu. Alors, vous allez, certains d'entre vous, peut-être me dire ici, oui, mais ça, c'est l'œuvre des écoles adventistes, en fait. Moi qui suis parent, du moment que je... En fait, si je comprends bien cette déclaration, du moment que je mets mon enfant dans une école adventiste, c'est l'école adventiste qui va s'occuper de ça, en fait. Mais il faut savoir une chose, c'est que Mme White a parlé, elle a dit à tous les niveaux, d'accord? Et j'ai eu l'occasion de présenter un message intitulé « Sortez du milieu de Babylone » lors du comité que nous avons tenu sous l'île de la Réunion en décembre de l'année dernière, décembre 2018. Et dans ce message, nous avons démontré avec la Bible et l'esprit de prophétie que le plan de Dieu, mes amis, pour l'éducation d'une jeunesse qui, à la lumière de ce que nous avons lu là, en fait, eh bien, purifie sa vie et est capable de résister à l'épreuve, eh bien, cela se joue notamment dans le premier degré, en fait, d'accord? C'est-à-dire, l'enseignement du premier degré, c'est de garder nos enfants à la maison et de les instruire et de les préserver des influences corruptrices du monde. Vous avez bien entendu. Et je vais le redire de manière autrement, pour ceux qui n'ont jamais été habitués avec ce concept, cette vérité, Dieu nous demande, mes amis, dans sa parole et dans son témoignage, dans le témoignage de Jésus, dans l'esprit de prophétie, de garder nos enfants chez nous durant les 10 aux 12 premières années de leur vie, pour les instruire, afin de les préserver des influences corruptrices de ce monde. Et une fois que cela est fait, nous pouvons ensuite les placer dans un enseignement de second degré, c'est-à-dire où c'est un autre éducateur que les parents qui fait cette éducation. Et voilà pourquoi, mes amis, vous avez des gens comme Joseph, vous avez des gens comme Moïse, vous avez des gens comme nos quatre Hébreux, des gens comme Jean-Baptiste et Jésus lui-même, qui ont été des hommes qui, dans leur vie, lorsqu'il y a eu un moment de crise, ils sont restés fidèles. C'est parce que, dès leur jeune âge, ils ont été instruits à la fidélité. Je ne suis pas en train de dire ici que ceux qui d'entre nous n'ont pas fait l'école à la maison durant les premières années de leur vie, les adultes qui d'entre nous n'ont pas fait l'école à la maison durant les premières années de leur vie, ne seront pas sauvés. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire là, en fait. Mais rappelez-vous de mon propos. C'est qu'au départ, je parlais de la jeunesse qui vivra lorsque ce temps de crise s'abattra pleinement sur nous. Parce que figurez-vous qu'il y aura des jeunes, mes amis. Il y aura des jeunes. Il y aura des jeunes qui seront vivants, en fait. Des enfants qui seront vivants à ce moment-là. Lorsque la marque de la bête va arriver, en fait. D'accord? Il y aura des jeunes qui seront vivants, en fait. Il y aura des adultes qui se seront repentis, qui auront donné leur vie à Jésus, etc. Mais il y aura des jeunes. Et ces jeunes-là, pour passer le test, pour vaincre l'heure de la tentation, en fait, sortir victorieux de l'heure de la tentation, il faut que, eh bien, dès leur plus jeune âge, ils reçoivent cette éducation que Dieu a pour eux. Et dans cette éducation, mes amis, il n'y a pas à imiter les programmes du monde, nous dit-elle. D'accord? Et c'est une éducation, nous est-il dit, il sera clairement précisé que les étudiants de tous les niveaux doivent éliminer de leur vie les pratiques mondaines en contradiction avec les enseignements de la parole de Dieu pour les remplacer par des pratiques portant la marque du divin. Et après, il est question de formation du caractère. Dans la conception divine, l'éducation n'est pas simplement apprendre à un enfant 2 plus 2. Ça tape de 1, ça tape de 2, ça tape de 3, de 4, de 5. À la grammaire, l'orthographe, un peu de science, un peu... C'est pas ça l'éducation selon Dieu, en fait. Il s'agit véritablement de toute la formation de l'esprit, en fait, du caractère. De l'enfant, en fait. Et en tant que parent, et je m'adresse ici aux parents, et j'aimerais vous dire la chose suivante. Il y a, ou je vais le formuler ainsi, en fait. Je vais le formuler ainsi. L'éducation de l'enfant, en fait, va déterminer le salut de l'enfant. Vous avez compris ça? L'éducation qu'un enfant reçoit va déterminer ce que son salut sera, en fait. D'accord? Et je n'ai pas apporté la citation ici, mais dans un autre ouvrage, Conseil pour l'Église, je crois, elle dit cela, en fait. Elle lie la rédemption avec l'éducation, en fait. Par conséquent, si j'ai la possibilité, je dis bien, si j'ai la possibilité d'éduquer mon enfant, d'appliquer le plan de Dieu, et que je ne l'applique pas, à ce moment-là, je suis volontairement en train, en fait, de placer mon enfant dans une mauvaise situation, en fait. Je dis bien, si j'ai la possibilité, j'insiste, parce que il y a des parents qui n'ont pas cette possibilité. D'accord? Ils n'ont pas cette possibilité. Parce que le plan de Dieu n'a pas été pleinement réalisé. L'idéal de Dieu, je veux dire, l'idéal de Dieu n'a pas été pleinement réalisé et n'est pas encore pleinement réalisé dans leur vie. D'accord? Parce que, voyez-vous, le mariage est voulu par Dieu comme plan pour éduquer les enfants. D'accord? Et donc, des fois, il y a des situations où un parent est manquant et il va être très difficile pour un parent de proposer cette éducation à son enfant. D'accord? Et là, il y a deux choix qui s'imposent. C'est soit, eh bien, à ce moment-là, l'idéal de Dieu peut être atteint, d'accord? Ou sinon, il y a association de mères qui œuvrent ensemble pour faire l'éducation aux enfants, d'accord? Et parce que voyez-vous, si... Donc, voilà ce que je voulais apporter par rapport à ceux qui ne peuvent pas, en étant seuls, faire l'éducation aux enfants. Mais maintenant, pour ceux qui ne sont pas seuls, d'accord? Pour les enfants qui sont dans un... Les parents, des enfants qui sont dans un foyer, je dirais, qui n'a pas subi de dommages, d'accord? Qui n'a pas été détruit, d'accord? Ne pas proposer, ne pas donner cette éducation à son enfant. Comme je le disais tout à l'heure, c'est menacer le salut de l'enfant, tout simplement, en fait. Et je vais vous dire quelque chose. Si je ne peux pas, si, ou tout du moins, je vais prendre la situation ainsi, si deux parents, un père et une mère, ne peuvent pas donner cette éducation à leur enfant, en fait, ce qui contribue à son salut, en fait, ils sont en train de mettre eux-mêmes leur salut en danger, en fait. Vous avez suivi ça? Ils sont eux-mêmes en train de mettre leur salut en danger. Car si je ne peux pas instruire mon enfant, alors que j'ai la possibilité de le faire, si je ne peux pas instruire mon enfant comme Dieu me le demande, alors que j'ai la possibilité de le faire, et que Dieu me fait la grâce de pouvoir le faire, parce que ce que Dieu nous commande, il nous permet aussi de le faire. Mais si je refuse, mes amis, à ce moment-là, c'est mon salut que je mets en question, en fait. Et à l'issue de cette crise, mes enfants ne seront pas avec moi. Et vous pensez que Dieu va... Qu'est-ce que vous pensez que Dieu va dire, si ce n'est pas le cas? Où sont les enfants que je t'ai donnés? Ils sont où? Parce qu'il fallait les préparer pour la crise, eux aussi. Il fallait les préparer. Donc, ce n'est pas une petite chose, mes amis. Ce n'est pas une petite chose. Mais il y a une bonne nouvelle ici. Il y a une bonne nouvelle. Et c'est que nous avons la promesse. Nous avons la promesse que nous allons eh bien, passer ce test haut la main. Je répète, nous avons la promesse qui nous a été faite que nous allons passer ce test haut la main. Vous ne me croyez pas? Vous me dites, ah non, je suis sûr que vous dites, attends pasteur, attends. Tu es en train de nous dire que, tu es en train de nous présenter tout un plan là, bien compliqué, hein? Et tu es en train de nous dire derrière ça que on va passer le test haut la main. C'est pas moi qui le dis. Apocalypse 3, verset 10, reprenons le texte de base. Il est dit, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi-même je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Mes amis, est-ce que c'est vous qui allez vous garder vous-même? Est-ce que c'est vous? Non! C'est qui? Dieu? Mais qui est-ce qui parle très précisément ici? C'est Jésus, le vainqueur, n'est-ce pas? Amen! C'est Jésus lui-même, mes amis, qui va nous garder. Et quand Jésus garde quelque chose, mes amis, lui qui a vaincu le monde, lui qui a vaincu l'ennemi, et il a vaincu au ciel, une première fois, mais aussi une deuxième fois sur terre. Ça veut dire que maintenant qu'il est au ciel et qu'il réalise, et qu'il est dans la phase finale de son œuvre, il peut nous garder, mes amis. Et on a l'assurance qu'il va nous garder. Donc, nous allons passer le test haut la main. Mais cependant, il y a une condition. C'est qu'il dit, parce que tu as gardé la parole de ma patience. Parce que, donc, autrement dit, si, en fait, si on garde, eh bien, à ce moment-là, il va nous garder. Et Apocalypse 14, verset 12 nous dit, c'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, mes amis, si nous sommes fidèles, si nous sommes fidèles à Dieu, dans l'observation de ses commandements et de la foi de Jésus, eh bien, Christ va nous garder. Christ va nous garder. Mais est-ce que vous savez comment être fidèle? Ou est-ce que vous savez quelle doit être la régularité de cette fidélité, en fait? Parce que nous devons être trouvés fidèles lorsque nous allons arriver, en fait, lorsque cette crise va se prendre sur nous. J'aimerais vous donner un texte. Luc 16, verset 10. Luc 16, verset 10. Luc 16, verset 10, et là il est dit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. » Mes amis, nous ne pouvons pas être trouvés fidèles lorsque la crise fondra sur nous si, jour après jour, nous ne sommes pas fidèles. Si jour après jour, nous ne persévérons pas dans les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est pour cela que nous devons réaliser que cette préparation pour la crise finale ne va pas se faire durant ce camp meeting, que cette préparation pour la crise finale ne va pas se faire, eh bien, la veille où, eh bien, le monde va connaître la propagation du décret au commandant, eh bien, de prendre la marque de la bête, et que cette